je ne crois pas que dans les prédications qui ont précédé, on ait abordé la question de la sagesse au chapitre 3. Nous allons donc aborder aujourd'hui cette question de la sagesse dans Jacques 3. Ah, il faut peut-être que j'allume. Voilà. Non plus. Voilà. Jacques a dit, non, ne vous levez pas, c'est pas le jeu, hein, c'est juste le texte biblique. Donc Jacques a dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Merci, Olivier. Je suis plus petit que ce que je croyais. L'humoriste Sim a dit « La sagesse, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. » Alors, j'espère vous parler avec sagesse, parce que sinon, vous pourriez me dire à la fin « T'aurais mieux fait de t'écraser. » La sagesse est un thème prépondérant dans les Écritures. On connaît la sagesse de Salomon, dans les Proverbes en particulier, qui en parle beaucoup, et en particulier le chapitre 8, tout entier, et on assimile cette sagesse à Jésus lui-même, tant les attributs lui sont semblables. Luc dit que l'enfant Jésus était rempli de sagesse. Et dès l'âge de 12 ans, il enseignait dans le temple et il croissait en sagesse. Plus tard, Matthieu dit que le peuple, devant son enseignement, dans la synagogue, disait étonné, d'où lui vient cette sagesse ? Paul aussi, dans ses épîtres, surtout 1 Corinthiens, en fait état, on le verra après, mais aussi Job, Jérémie, Pierre et d'autres. Alors, qu'est-ce que la sagesse ? Quand une mère dit à son enfant, « Si tu es sage, je te donnerai des bonbons. » L'enfant va donc s'efforcer pendant quelque temps d'être sage, et après, il reprendra son tempérament belliqueux. Donc, la mère conditionne la récompense à la sagesse. Mais l'enfant n'est pas sage pour autant, il s'est juste tenu tranquille. La sagesse n'est pas conditionnée par le besoin ou les circonstances du moment. Elle fait partie de la nature propre à la personne, que cette nature soit innée, ou qu'elle soit acquise par un changement de comportement. Et là, on pense bien sûr à la conversion. Dans le cas d'un changement de nature, il faut vraiment que le Seigneur ait nettoyé de fond en comble le vieil homme. Si la sagesse ne se fabrique pas automatiquement par des procédés artificiels, elle peut se modeler par une attention donnée aux paroles des sages et dont l'Écriture abonde. Savoir écouter, retenir, apprendre, mettre en pratique, se corriger avec humilité, rechercher ce qui est bien pour tous, voir assez loin pour anticiper les conséquences de tout acte ou toute parole prononcée. Et pour cela, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut d'abord définir ce que la sagesse n'est pas. La sagesse n'est pas instruction ou connaissance. Pascal, le philosophe chrétien, disait qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. On peut avoir fait beaucoup d'études, être très doué pour telle ou telle matière, avoir une grande culture et être un parfait imbécile. Le grand savant, bien connu pour sa maladie de Charcot, Stephen Hawking, athée revendiqué, je l'avais évoqué lorsque j'ai abordé la question de Dieu et de la création, et qui n'admettait pas l'idée d'un créateur, a dit « L'univers peut bien se créer lui-même à partir de rien, sans Dieu. » Alors moi, je ne suis pas savant, je ne suis pas scientifique, mais je me demande comment un univers peut se créer s'il n'existe pas. Et ceci n'a pas échappé à un autre scientifique qui commentera ses propos en ces termes. Une absurdité reste une absurdité, même si elle provient de scientifiques mondialement célèbres. Un grand savant, un grand intellectuel, peut dire en effet une ânerie. Mon père était très calé en histoire et en français. C'était un autodidacte. Il n'a jamais eu son bac, il n'avait que le certificat d'études, et pourtant il est passé de facteur à inspecteur principal des PTT pour toute la région de la Haute-Garonne. Mais il manquait cruellement de sagesse pour gérer sa vie et celle de sa famille. Aucun de ses enfants n'a suivi ses conseils ni son exemple. Vous connaissez tous les débuts de nos problèmes en Genèse 3. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, du fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal et vous serez comme des dieux. » Autrement dit, vous aurez la connaissance, la science infuse. Vous serez des êtres supérieurs, presque des dieux. À Babel aussi, les hommes voulaient atteindre les cieux en construisant une tour dont le sommet touche le ciel. Ça ne vous fait penser à rien, ça, aujourd'hui. On propose toute une science de la connaissance de soi et du monde par des techniques de méditation, développant son karma, en recentrant les énergies, sondant l'avenir par l'horoscope ou la voyance, pour atteindre le nirvana, et ça c'est pour le côté hindouiste, ou encore le tétan, pour le côté scientologue. Le tétan se définit comme l'esprit qui utilise le mental comme système de contrôle pour établir un lien entre lui et l'univers physique, rien que ça. Des générations de jeunes accompagnés de musique psychédélique sont allés à Katmandou en Inde voir les yogis, soi-disant des sages hindous, à la recherche d'une autre façon de vivre, se perdant dans la drogue, l'ésotérisme ou des sectes esclavagistes comme Hare Krishna ou la méditation transcendantale, ou se baigner encore dans le Gange pour être guéri, alors que c'est l'un des fleuves les plus pollués au monde, donnant des maladies de peau ou intestinales. Quand on voit les adeptes de ce genre de technique, souvent les yeux fermés pour appréhender l'univers, en position du lotus, en connexion avec la nature ou les arbres, captant les énergies, on se dit qu'en effet, ça plane pas mal. Qu'on est loin de la simplicité évangélique. Car Dieu ne fait pas de nous des dieux, mais des pécheurs rachetés qui n'ont rien à payer de leur personne pour accéder au paradis. La sagesse n'est pas non plus philosophie. Paul d'ailleurs compare cette sagesse à celle du monde, et on vient d'en parler. Dans 1 Corinthiens 1, il dit ceci, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. J'aime bien ce mot, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que non-Juifs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le sage et fakir hindou qu'on appelle le Sadhu Sundar Singh, converti au christianisme, a dit « La croix est comme la noix, l'écorce est amère, mais le fruit est excellent. » La sagesse n'est pas non plus psychologie. Bien qu'il soit utile d'avoir de la psychologie dans les rapports entre les humains. Être fin psychologue permet d'éviter bon nombre de quiproquos et de gaffes qui sont les aiguillons de la discorde. Mais certains psychologues de profession feraient mieux de retourner sur les bancs de l'école. On peut avoir appris des techniques, mais ne pas savoir les mettre en pratique, dans le concret. Connaître la sagesse toute humaine, mais pas celle de Dieu et l'espérance qui en découle et qui permet à l'âme tourmentée de trouver le vrai repos. En tant que médecin, j'ai travaillé dans une clinique psychiatrique, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont tourmentés. Et on ne peut pas, dans ce lieu, parler de Jésus-Christ. Mais je me suis dit à maintes reprises, il leur manque une seule chose, c'est la paix de Dieu. Ça m'est arrivé quand même de le faire contre avis professionnel, mais bref, la circonstance s'y prêtait. Ce n'est pas non plus un arrangement aux tactiques. Abraham avait reçu la promesse de Dieu d'une descendance à l'âge de 75 ans. Il a dû se dire que ce n'était pas bien sage de la part de Dieu d'avoir attendu si longtemps. Mais comme Dieu lui l'avait promis, il a attendu pendant 10 ans et rien ne venait. Alors il s'est dit que peut-être il serait sage d'écouter la proposition de sa femme Sarah d'aller vers sa concubine et d'enfanter ainsi d'Agar l'Égyptienne. Et on connaît la suite. Agar enfante Ismaël, père des Arabes, et ensuite Sarah enfante Isaac, père des Juifs, dont les conflits perdurent jusqu'à aujourd'hui, on l'a encore vu ces jours-ci. Et on crée encore une prochaine intifada. C'était la sagesse humaine qui a donné des fruits amers. La sagesse n'est pas non plus raison, ni rejet d'une religion prétendument archaïque. Ésaïe 5:20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière » et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux et qui se croit sage. J'ai entendu un jour l'écrivaine très connue Amélie Nothomb, vous devez peut-être la connaître, à propos de son livre « Soif », le livre de sa vie. C'est elle qui le dit. Elle parlait de Jésus et exprimait son admiration pour cet être si sage, si humble, rempli d'humanité. Mais, poursuivit-elle, quelle erreur ! Mais alors, quelle erreur n'a-t-il pas fait d'aller jusqu'à la croix ? Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Avec ma femme, on s'est regardé, on dit, elle n'a rien compris. Car c'est justement la croix qui nous libère de la malédiction. Paul a bien dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, la sagesse, c'est tout autre chose. Elle s'apparente à l'intelligence pratique. Paul les associe. Elle est parfois la conséquence de l'apprentissage de la vie. L'expérience est le nom que chacun donne de ses erreurs, disait Oscar Wilde. En effet, savoir admettre ses erreurs et reconnaître ses échecs permet d'apprendre de la vie pour corriger sa façon de voir et de faire. Concrètement, la sagesse de Dieu se révèle dans les cas bien particuliers, par exemple dans les décisions, les grands choix de la vie. Il est impératif de demander l'avis de Dieu sans se laisser influencer par ses propres désirs. Choix d'un conjoint. Puis-je me lier à quelqu'un qui ne croit pas au Christ ? Mais m'engager pour toute une vie avec cette personne, sachant que Paul dit « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Et encore, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Choix d'un métier. Ce métier est-il honorable pour Dieu ? Puis-je accepter une embauche si je sais qu'on va me demander de magouiller pour arranger les affaires de l'entreprise ? Choix de vivre dans une région où je sais qu'il n'y a aucune église ? Est-ce que Dieu est ma référence, Christ mon modèle à suivre ? Ou est-ce que je fais appel à lui après avoir fait mes choix et lui demander de réparer après mes erreurs ? Dieu n'est pas la dépanneuse qui va m'apporter les sens que je n'ai pas prise au départ. Il faut assumer les conséquences de ses choix. Choix de rester humble en toutes circonstances. Et Mathieu Charrière nous en a parlé la semaine dernière. Être humble, c'est ne pas ambitionner les premières places. Comme les apôtres Jacques et Jean convoitant les meilleures places auprès du Seigneur dans le royaume des cieux. Ni souhaiter être en lumière aux yeux d'autrui. Chercher l'approbation et l'honneur, les éloges, paraître. Jouer des coudes pour faire sa place. Faire cavalier seul. Avoir le ballon pour marquer seul le but. Sans jouer équipe avec les autres. C'est aussi savoir s'effacer, accepter de se retirer, laisser la place aux autres, être conscient qu'on n'est pas là à un poste fixe, indéboulonnable. C'est accepter humblement les remarques, les autres avis différents, se remettre en question et n'avoir d'autre ambition, et là j'insiste, que d'être un serviteur et rien de plus. La sagesse est d'abord discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Paul parle aux Philippiens du discernement des choses les meilleures afin d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Et Dieu sait qu'il faut du discernement pour gérer les affaires d'une église. Ménager les susceptibilités, trouver des terrains d'entente, réconcilier les uns avec les autres, encourager certains, reprendre d'autres, être ambitieux pour le Seigneur sans être dépensier, faire avancer les choses plutôt que de se contenter d'un certain confort. Dans les conflits, dans l'Église, Paul dit aux Corinthiens, « N'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères ?» Ou dans les couples, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Quelqu'un prenant ce mot comme référence a dit à une autre personne, il y a quelque temps, ma femme et moi, nous ne sommes pas allés au lit avant 4 jours. Ils ont mis 4 jours pour se réconcilier. Pour cela, vous pouvez prier pour les conseillers, en particulier lors des prochaines élections, pour les conseillers de la Belge. Priez aussi pour vos conducteurs, les membres des conseils, et aussi pour les enfants et les moniteurs, pour que l'Église grandisse et soit en bonne santé spirituelle. La sagesse, c'est aussi la crainte de Dieu, c'est-à-dire le profond respect de la personne et de l'œuvre de notre Dieu. C'est reconnaître que Dieu est souverain, qu'il tient notre vie entre ses mains, et cela nous pousse à l'humilité, la simplicité, l'honnêteté, la vérité. L'homme n'est plus le centre de tout, mais c'est Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Proverbe 3 dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Salomon demanda la sagesse en ces termes. Accorde à ton serviteur, vous voyez là aussi l'humilité, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal et ce qui plut à l'Éternel. Cette sagesse de Dieu peut nous être donnée au moment opportun par le Seigneur, selon sa promesse en Matthieu 10. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et Paul dit aux Corinthiens, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. La sagesse est divine. Jacques nous livre ici dans ces versets une panoplie qui qualifie la sagesse divine et une série aussi qui ne la qualifie pas. La première donne de bons fruits, tels que bonne conduite, douceur, pureté, paix, modération, conciliation, miséricorde, et selon Galates 5 aussi, les fruits de l'esprit, amour, joie, patience, bonté, bénignité, fidélité, tempérance, mais la seconde, zèle amer, dispute, gloriole, mensonge, elle est terrestre, charnelle et même diabolique, désordre et mauvaise action, duplicité et hypocrisie, et selon Galates 5, impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table, passion et ses désirs, et choses semblables. La première est d'en haut, la seconde d'en bas. Vous en avez la description dans le livre sur l'épître de Jacques que nous avons utilisé donc pour le quiz biblique « Soyez matures ». Jacques nous dit de montrer de la sagesse par des œuvres de bonne conduite et de douceur, en particulier par la maîtrise de notre langue, comme il en est question au chapitre 3. Un bon témoignage ne peut passer que par là. Maîtriser aussi ses humeurs, son impulsivité, sa nature pécheresse, savoir écouter. Le poète Goethe disait « Parler est un besoin, écouter est un art. La sagesse est divine parce que Dieu est omniscient et de lui procède tout ce qui est beau, bien et vérité. L'apôtre Paul dit aux Philippiens que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La sagesse humaine se fait par la raison, la réflexion. Elle est charnelle et a pour centre l'homme ou le moi, marqué par le péché et donc fourvoyé. La sagesse divine se fait par la révélation et elle a pour centre Dieu par la foi. Insensée pour les hommes, elle est pure et sainte, car elle se fie à celui qui l'a créée. Jacques nous exhorte au chapitre 1er à la demander avec foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, et ce non pour avoir de la culture, mais pour répondre, comme le dit l'apôtre Pierre, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Victor Hugo disait « La Bible contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine ». Paul, dans Éphésiens 3, nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, car c'est en lui qu'est la sagesse exemplaire. Et Jean nous dit, le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence, ou la sagesse, pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. La sagesse divine, nous dit l'Écriture en divers endroits, est avec les humbles, avec ceux qui écoutent, qui observent ses commandements, qui la recherchent comme un trésor, meilleur que l'or et l'argent, source de vie et de salut. Elle est sainte, juste, bienfaisante, agréable et sobre. Dieu nous demande de la pratiquer par une sainte conduite auprès des païens. Proverbe 8 nous dit ceci. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. C'est-à-dire, comme on l'a dit, lors des grands choix de vie. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droite pour ceux qui ont trouvé la sagesse. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. La conclusion nous est donnée au verset 35. Celui qui me trouve a trouvé la vie et quoi? Qui peut me dire la fin de la phrase? Exact. Il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Avez-vous trouvé la vie véritable qui donne la vraie sagesse et la faveur de l'Éternel ?